merci de m'accueillir, hein, de votre chouette cinéma, de votre chouette ville. Et voilà, c'est un film que j'ai tourné principalement tout seul, disons que j'ai animé tout seul. C'est juste moi et ma caméra et mon papier et mes feutres. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous aurez des questions. Ah, je vais en noter si je dis de... On a plein si je dis de plaigner que c'est trop plein. Mais... Bon, passons. Donc voilà, j'ai fait ça avec vraiment les moyens que je possédais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et voilà, je remercie à ceux qui m'aident à promouvoir ce film chez LAC. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes là et qu'ils veulent vraiment remplir tous les sièges. Donc, ils ont été chercher des packs à chien dans la rue. Donc je reviens après et puis je répondrai à vos questions. Il était très content, très touché, il a bien envie.
Ok, merci.
Bonsoir et merci pour toutes ces belles animations. Je voulais savoir quel était votre rapport avec Noam Chomsky, justement, parce que c'est un coup de cœur personnel de longue date, intellectuel.
Ben, j'ai pris conscience de son activisme et sa critique de la politique avant de connaître son travail scientifique. Et après, son travail scientifique m'a passionné et j'ai eu l'occasion j'étais invité en artiste en résidence au MIT, l'école où il enseignait, qui est aussi un lycée technique très pointu. Et j'ai vu qu'il était là-bas, donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises et on parlait de choses et d'autres, enfin c'est plutôt lui qui parlait. Et un jour, je lui ai proposé l'idée de faire le documentaire, voilà, il a accepté.
C'est un bel hommage en tout cas, merci.
Oui, pas trop de questions, en fait, plus pour vous remercier de nous faire partager ce moment avec cet homme dont on ne comprend pas tout, mais donc on a vraiment l'impression de pouvoir approcher avec le dialogue que vous avez mené avec lui.
Merci. Ben, c'était un peu le but, c'était de souligner son côté humain que j'avais apprécié et d'approcher un petit peu en surface, et pas complètement que en surface, son travail scientifique sur la grammaire générative et comment il en était arrivé là. Et voilà, donc c'était un peu mon but. J'ai volontairement pas poussé trop pour sur les questions en politique, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui existent sur ce sujet, et puis j'avais un petit peu envie que les gens puissent avoir une approche un peu plus humaine de lui, peut-être que par rapport à, si on comprend mieux cet aspect du personnage, on peut être plus réceptif à ses idées politiques qui sont assez radicales.
Oui, bonsoir. C'est par rapport à ce travail cognitif, je trouve très intéressant, que Noam Chomsky. Alors justement, je voulais savoir si on n'avait pas abordé dans ce film sur les thématiques politiques et socio-économiques. Il existe aujourd'hui deux grandes... J'aurais dû lui poser la question, moi, vu que j'allais être là par Internet, de la poser. Donc la question, c'est la dissonance cognitive qui aujourd'hui est fondamentalement palpable, surtout ici à Utopia, particulièrement chez Utopia, vis-à-vis de nos politiques socio-économiques, vis-à-vis du... changement de paradigme que permet en politique, donc le tirage au sort du suffrage universel, et en socio-économie, de créer l'argent non plus par la dette, mais par l'existence humaine.
Voilà. Une question que je crois. Lui, quand on lui pose ce genre de questions, je mets à sa place, il hésite de faire le lien entre son travail scientifique et son travail politique, parce qu'en fait, c'est venu en même temps quand il était enfant. Il s'est intéressé à la politique très tôt et à la science très tôt, parce qu'il était intéressé par les problèmes de relativité générale. Il lisait des choses avec son père. Alors, pour répondre à votre question, il faudrait la reformuler d'une façon, de manière plus simple. Je veux bien vous la reposer, mais avec des termes plus simples, je vais essayer d'y répondre.
C'était pas simple non plus dans le film.
Non, mais je sais, mais le fait de mélanger les deux, ça rend encore
plus compliqué. Vulgariser, c'est important, c'est ce que vous avez fait, vous avez réussi à faire avec, enfin, des fois, ça compliquait aussi les choses, vos dessins, mais bon. Alors, j'essaie d'être plus simple. Bon, c'est très c'est très politique et socio-économique, hein, parce que ça concerne ces deux champs. Tout simplement, aujourd'hui, l'argent est créé par la dette, ce qui est la source de tous nos problèmes. C'est la même chose qui est réfléchie. Et je veux savoir si il avait compris que si on crée l'argent moins par la dette, c'est-à-dire par l'existence humaine, le revenu d'existence. Est-ce que vous pensez que c'était une solution à un problème? Ça, c'est de l'ordre du socio-économique. Et au niveau du politique, est-ce qu'il s'est bien rendu compte que le suffrage universel, hein, la représentation par le vote, ne permet pas au peuple d'être en démocratie? Est-ce qu'il avait compris que le tirage au sort d'un suffrage universel permettait de développer la vraie démocratie?
Je ne sais pas. est vraiment axé sur les concentrations de pouvoir et sur les échecs de la démocratie. Je ne pense pas qu'il ait une autre proposition que le suffrage universel. Par contre, en revanche, le fait que... moi, c'est mon opinion, je suis sûr que c'est le genre de propos qu'il aurait, c'est que c'est vrai qu'on nous parle toujours de dette, de pays, ces trucs, des banques qui associent des notes au pays, on perd les 3A, ça n'a strictement rien à voir avec la démocratie, ça a l'air d'être mis en place par, bah, déjà, si c'est les banques qui notent, qui jugent la qualité des pays, c'est une grosse erreur. Maintenant, c'est une question que vous lui posez à lui. Je suis désolé qu'il ne soit pas là, mais j'ai un peu mal à y répondre.
Bonsoir. Alors, moi, je voulais vous poser une question sur votre approche artistique, parce que j'étais impressionné par votre créativité. C'est vraiment génial. Vous arrivez à transmettre des concepts qui ne sont pas si évidents que ça, d'une façon très visuelle, et donc qui nous touchent très facilement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici. Mais je voulais savoir, pour vous, quel était le moteur? Qu'est-ce qui vous a poussé? D'où venait toute cette créativité, en fait? À un moment, vous dites que... vous en parlez dans le film, mais à un moment, vous dites que votre maman était malade, que n'était pas au top de sa forme non plus, et que malgré cela, vous aviez quelque chose qui vous poussait, en fait. Quel est le moteur?
Mais en fait... il est en bonne santé, Chomsky. Mais j'avais besoin d'une sorte de motivation. C'est comme si c'était un film que j'ai entrepris tout seul, que j'ai financé tout seul jusqu'au point où il fallait le terminer. Donc j'ai utilisé la structure dans laquelle je travaille habituellement, qui est Partizan. Mais jusqu'à la toute fin du film, j'étais complètement autonome. Alors l'avantage, c'est que je prends toutes mes décisions artistiques, notamment tout seul, et que j'ai une liberté absolue, et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de force extérieure qui me pousse, une force à terminer le projet. Et j'étais très inquiet, étant inspiré par d'autres projets qui, eux, avaient une structure financière beaucoup plus importante et qui donc réclamait d'être terminé pour être produit et projeté dans le public, que je ne termine jamais ce film. Il était par fragments, il commençait à s'avancer et je me suis posé à cette question, à ce moment, la question est-ce que finalement je vais réussir à terminer avant que Noam Chomsky meure, parce que j'avais pas du tout envie de faire un film posthume. Ça. Et puis aussi, comme je disais, comme on en parlait, j'avais envie qu'il le voie. Bon, c'est un petit peu enfantin, mais pour moi c'était important de lui montrer que j'avais bien travaillé, tout bêtement. Donc c'était une manière de motiver pour terminer le film. C'est vraiment pour ça que j'en parle comme ça.
Bonsoir.
Déjà, je veux vous remercier pour ce choix de film.
Et puis, je vais vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire entrer votre créativité dans un cadre tel que le documentaire, et aussi pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vous limiter au niveau technique à faire des animations telles que vous les avez fait, ou à tel choix de caméra plutôt qu'une autre. Et la deuxième question était sur comment vous avez choisi les thèmes que vous allez aborder, comment vous avez collecté, en fait, comment vous avez organisé, choisi de parler de tel thème plutôt que de tel autre. Est-ce que vous avez eu des entretiens avant de commencer le projet avec Chomsky?
Bon, non, on s'était vu pas mal de fois avant, 6 ou 7 fois, et puis c'était progressivement plus long les interviews, les discussions, et moi j'étais intéressé, et son activisme et sa pensée politique, économique et surtout sociale, c'est quelque chose qui me passionne, je le trouve extrêmement convaincant. Et c'est ce qui m'a attiré vers lui en premier, mais en même temps j'avais en face de moi quelqu'un qui a inventé une science, disons, qui a modifié la science par un apport, par une intuition qui s'est démontrée avec le fil du temps, et donc c'est un sujet qui me passionnait. C'est comme si j'avais en face de moi le gars qui avait prédit le Big Bang, qui est Hubble, je pense. Si je l'avais vu en face de moi et qu'on pouvait parler de Big Bang, ça me paraissait incroyable. Donc là, c'était la même chose. J'avais quelqu'un en face de moi qui avait réussi à, qui avait une inspiration, qui avait réussi à démontrer que le langage était inné, c'est-à-dire qu'il était inclus dans notre code génétique. Donc j'avais envie de parler de ça, essayer de le comprendre. Après, l'utilisation de l'animation, c'est une façon que j'ai de m'exprimer, qui est naturelle pour moi, et je pensais que c'était une manière personnelle et différente d'aborder ces sujets. On ne voit pas tous les jours des films complètement en animation sur des sujets aussi scientifiques. Voilà, j'ai voulu m'exprimer comme ça. Puis la première question, je vais vous dire.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Alors donc, au début de votre film, vous dites que quand vous étiez enfant, vous croyez en la réincarnation. Et à la fin du film, vous dites que, enfin, voilà, vous citez Chomsky et vous dites que l'esprit est vide. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais moi, ça me fait énormément penser au bouddhisme tibétain, où il y a des choses qu'ils considèrent aussi comme une science de l'esprit. Enfin, je trouve qu'il y a un lien là-dedans. Et je trouve aussi qu'il y a un lien avec votre œuvre, en fait, par rapport à l'inné et par rapport à des choses qui seraient. C'est là déjà présente, enfin, je pense à Eternal Sunshine ou voilà, des choses comme ça. De quelle manière est-ce que Chomsky a influencé votre œuvre?
Comme c'est la, disons, le dernier film que j'ai fini, on va le savoir pour l'instant. Je sais pas, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Ce que je peux dire, c'est que mon travail sur ma pensée sur la créativité et sur les choses sur lesquelles il est, c'est des choses que je ressentais et que sur lesquelles j'ai trouvé un écho dans son discours. Notamment, j'avais fait Pick and Rewind où je voulais essayer de démontrer qu'une communauté de personnes pouvait finalement construire leur bonheur en fabriquant ces films. Bon, c'est assez utopiste et naïf, mais entre-temps, j'ai eu l'occasion de démontrer en faisant ces usines que je fais de films amateurs, où les gens fabriquent leurs films dans un contexte qui leur est proposé. Donc, toutes ces choses auxquelles je crois sont des sujets qu'il aborde régulièrement sur la créativité, la démocratisation de la créativité. Donc il y a des points en commun. Évidemment, je ne me compare pas à lui, mais si j'étais intéressé par le personnage, c'est aussi parce qu'il défendait cette démocratie et cette espèce d'injustice. Moi, je vois bien, en étant à moitié dans le monde du cinéma et à moitié en dehors, que c'est comme un cercle de privilégiés qui est très fermé à l'extérieur. Ça, c'est le type de discours qui tient à une autre échelle, évidemment. Mais bon, mon intérêt envers lui n'était pas que scientifique, il était aussi très, très politique.
Bonjour. J'ai entendu dire que vous alliez adapter Le Public de Philippe K. Dick. Vous parlez un peu de science-fiction avec Noam Chomsky dans le film. Est-ce que cette conversation que vous avez eue avec lui a influencé la façon dont vous allez aborder ce livre qui est quand même un livre très complexe?
Oui, très complexe. Alors cette question de science-fiction, c'est le seul mot que je lui ai appris, donc j'en étais très fier. Et pourtant, il n'avait pas à s'en souvenir. Je me sentais moins seul. En revanche, par rapport à Ubik, c'est assez contradictoire parce que bon, Philippe K. Dick, il était très mystique. Il fait beaucoup de références au livre des morts tibétain. C'est pas des choses que. Moi, j'ai grandi dans un univers un petit peu spirituel, de croyance un petit peu. C'est pour ça que je parle de réincarnation. C'est les années 70. Ma mère était complètement dans ces systèmes de pensée. À la recherche de quelque chose pour remplacer les croyances catholiques, mais qui n'était pas forcément plus vraisemblable. Par rapport à Philippe K. Dick, je ne sais pas si de travailler avec Chomsky va m'aider. Je ne sais même pas si je réussirai à le faire, le film de K. Dick. C'est évidemment compliqué et tordu. Et déjà, avoir fait L'écume des jours, m'être attaqué à un livre culte comme ça, je ne vais pas le faire demain. Le livre de K. Dick. Mais entre Chomsky et K. Dick, c'est pas, à part certaines représentations psychédéliques qu'on peut retrouver un peu dans ce film, quand je réfléchis, mais a priori, j'arrive pas à faire le rapprochement.
Bonsoir. Sur le fond et sur la forme, j'ai aimé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un moment que je retiens, c'est lorsque Chomsky nous explique qu'il faut pas se contenter de reproduire la pensée et de mais qu'il faut avoir un sens critique, et j'ai beaucoup aimé le passage où, ne comprenant pas la question, ou ne rentrant pas dans votre question, vous la reformulez sous la forme d'un dessin, et je crois avoir lu dans le petit document que je me suis procuré à l'entrée, que le fait de mettre 12 ou 24 images secondes, ça vous a permis, une approche qui où vous sentiez d'égal à égal. C'est-à-dire cette méthode que vous avez de vous exprimer face à quelqu'un qui est évidemment quelqu'un qui a une pensée très très fluide, j'ai trouvé ce rapport entre l'image que vous décomposez et cette pensée fluide très intéressante. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport que vous avez eu entre quelqu'un qui est un maître entre guillemets, si tant est qu'il faille se attacher de l'importance au maître, et puis ce rapport que vous avez avec lui?
Effectivement, moi, j'étais très très impressionné. J'avais vraiment la conscience de m'adresser à quelqu'un qui a un savoir énorme, qui a apporté, qui a un grand penseur, qui a apporté qui a un énorme apport par rapport à la science dans le domaine de la linguistique, mais de la biologie pratiquement, utiliser l'animation. C'est vrai que c'était un domaine qui était complètement en dehors de sa compétence, de son activité, je trouvais que ça me permettait de pouvoir m'exprimer sans avoir trop honte d'être complètement idiot, c'est pas forcément égal à égal. Donc le résultat, c'est que finalement, il a apprécié énormément le film parce que le travail du film est méticuleux. Il y a quand même un travail de recherche et l'accumulation des dessins. C'est vrai que faire 24 dessins par seconde, 24 images, 12 images par seconde, ça permet d'une certaine manière, même si le dessin est naïf, d'avoir une sorte de densité dans l'expression. c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait une sorte d'équilibre qui pouvait se former. Et aussi, j'ai pas essayé de démontrer, d'illustrer tous ces propos. Il y a des fois où mon dessin part dans l'abstraction, et ce que je faisais, c'est un petit peu le principe du gribouillage quand on est au téléphone, qui existe malheureusement plus à cause du téléphone portable, mais quand on téléphonait assis, et qu'on dessinait pendant qu'on téléphonait, et moi, j'attache beaucoup d'importance à ce type de création, de créativité, qui est pas forcément contrôlée, c'est une chose que j'ai beaucoup faite pendant la réalisation de ce film, c'est que j'ai écouté des passages de son discours, de notre interview, en boucle, des petits bouts de 3 minutes, et je laissais mon trait s'accumuler. Et je pense que ça me permettait d'avoir une forme d'approche scientifique, finalement, même si elle n'est pas aussi contrôlée que la sienne. Et donc je me disais que ça je me sentais moins ridicule.
Je voyais dans le film un peu dans ce que vous disiez que vous galérez un petit peu pas beaucoup, mais je voyais un petit peu la galère que vous avez dans le monde anglophone à bosser créativement, et je me demandais, vu que vous avez bossé depuis tellement de longtemps dans ce monde, si vous avez des conseils pour bosser dans un monde qui est pas de votre langue, de surmonter des obstacles qui, si vous voyez ce que je veux dire, parce que effectivement, je suis anglais, j'aimerais bien commencer à faire des choses en français, et ça me paraît vraiment difficile, alors que je vois aussi que c'est possible.
Je l'ai utilisé à mon avantage au départ, c'est-à-dire que je me souviens du premier clip que j'ai réalisé en Angleterre, les gens à qui je parlais, les gens du groupe, n'avaient pas la moindre idée de ce que je disais, moi j'avais une idée très faible de ce que je disais, et même là, j'utilise cette technique avec Chomsky, c'est que j'utilise comme prétexte mon manque de compréhension de la langue pour cacher mon manque de compréhension du sens. Donc, très souvent, quand j'avais mes tours de pub réalisés ou un clip et qu'on posait une question à laquelle j'avais pas de réponse, je disais que j'avais pas compris à cause de la langue, et pendant qu'il reformulait la question, je cherchais la réponse. Et ça m'a pas mal servi. Donc je pense que c'est pas que un obstacle, ça peut être aussi un avantage. Et puis parfois, comme j'essaie d'expliquer, les mauvaises interprétations, finalement, deviennent des créations, puisque finalement, on invente un sens qui n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu, et c'est une sorte de réappropriation de l'idée, qui fait que c'est une nouvelle idée qui du coup m'appartient. Donc je pense que c'est un obstacle, mais c'est aussi un avantage. D'ailleurs, dans le film, si j'avais parlé, j'aurais été beaucoup plus gêné d'avoir une conversation avec un philosophe français, parce que j'aurais pas pu masquer ma naïveté ou le manque de compréhension, la limitation de mon vocabulaire. Alors que là, j'ai une bonne excuse. Il y a des mots que je comprends pas.
C'est ça. Bonsoir. On voit dans le film que vous avez réalisé ce film pendant le montage du Frelon Vert et la préparation des films des jours, et j'imagine The Way and the High. Et vous avez beaucoup de projets aussi différents, du plus personnel au plus grand public, si je peux me permettre. Comment vous choisissez vos projets, et est-ce que vous arrivez à réaliser toutes vos envies, et comment vous faites vos choix sur les projets de vos films qui sont très différents, je trouve.
C'est un peu les projets qui me choisissent d'une certaine manière. C'est-à-dire, je vais un peu où on m'appelle. Le Frelon Vert, par exemple, c'est un projet sur lequel j'avais travaillé 10-15 ans auparavant, en 96. J'avais écrit une histoire avec un scénariste, le scénariste qui avait écrit Robocop, entre autres, et Starship Troopers, que j'adorais. Et on avait écrit un scénario complètement différent, et on s'était fait jeter finalement par le studio. Et 15 ans après, c'est réapparu. Donc j'ai voulu le faire un petit peu par nostalgie, bien que le projet était complètement différent et pas aussi personnel que j'aurais aimé qu'il soit. Le projet de Chomsky, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et j'avais fait un clip, par exemple, pour Cody Chesnut, qui était dans Block Party, en utilisant cette technique d'animation abstraite, et je trouvais que c'était une bonne manière d'utiliser ce type d'animation pour illustrer un discours scientifique. Donc voilà, je me suis engagé là-dedans. L'équipe des jours m'a proposé de le faire, je m'ai refusé. Donc c'est assez varié. Et j'ai beaucoup la sensation de faire des erreurs, de pas être content de ce que j'ai fait. Donc j'essaie d'aller dans des directions différentes pour m'essayer à d'autres choses et voir si bon ça sera peut-être mieux, etc. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que ça change. Et puis oui, je pense que j'arrive quand même pas mal à m'exprimer. J'ai pas à me plaindre. Ça fait 12 ans que j'ai commencé à faire des films. J'en ai fait une petite dizaine. J'avoue que j'ai de la chance. Il y a des choses que... Disons que par rapport à... Quand je regarde mes films, je me dis que je pourrais faire mieux. Quoi. C'est une frustration, elle est là. Maintenant, je suis quand même assez content de ce qui m'arrive.
Bonjour. On voit dans votre film que Chomsky revient sans cesse sur des exemples avec des enfants. C'est toujours... On revient à l'enfant. L'enfant, pour un enfant, c'est toujours facile de l'entreprendre, c'est-à-dire faire cela. A-t-il une vision, une vue, une opinion sur la façon dont on élève les enfants aujourd'hui, ou comment devrait-on élever les enfants?
Oui, il y a une opinion très forte par rapport à ça. Alors peut-être que ça répondrait à cette question sociologique, cognitive, à laquelle j'avais du mal à répondre, mais par exemple, le système d'éducation qu'on reçoit, on critique toujours les pays religieux, où il y a une propagande constante, mais lui, ce qu'il dénonce, c'est que dans nos pays, il y a des propagandes constantes qui fait qu'on est patriotique. Je veux dire, il n'y a rien dans mes croyances profondes qui me dit que je devrais préférer la France à notre pays. Pourtant, c'est ce qu'on est amené à croire, et je pense que lui, ça fait partie de son discours, et il le dit de manière très, très directe et très virulente. On grandit avec des notions, par exemple aux États-Unis ou même en Europe, on considère Christophe Colomb comme le découvreur de l'Amérique, comme il est célébré, alors que c'est un immonde massacreur, enfin, qui a fait des génocides. Donc ça, c'est une propagande. Donc il critique très fortement ce type d'éducation qu'on reçoit. Et puis après, sur un point de vue plus personnel, comme il explique dans le film, on parle de la compétition, comme quoi c'est vraiment inutile. Et lui, il a eu la chance d'aller dans cette école où l'enseignement n'était pas trop cadré et que les enfants pouvaient s'épanouir. Donc il a plein d'idées sur la question. Mais par rapport à son discours scientifique, il est intéressé par l'enfance parce que c'est des clés de base de la grammaire générative ou universelle. C'est l'acquisition du langage qui s'opère d'une fourchette d'âge très restreinte. Donc, il revient souvent sur l'acquisition du langage, donc sur l'enfance. C'est aussi pour ça que la première question que je lui pose, c'est sur son premier souvenir, pour lancer la conversation là-dessus, et puis en même temps lui permettre de parler de lui de manière très personnelle.
Oui, moi j'ai une question. C'est pour revenir donc, sur la forme du film, quoi, donc ce travail d'animation colossal, et donc j'espère que ça risque de paraître impertinent, même un peu stupide, bon, je le pose quand même. Il y a quelque chose qui me restait encore un peu ambigu, enfin qui restait un peu flou dans ma tête, c'est à certains moments dans le film, j'ai cru déceler de votre part, genre comme une espèce de comment dire ça, comme si vous comme si c'était trop de travail en quelque sorte pour vous, quoi. Je sais pas, comme une plainte quelque part de ce travail d'animation, parce que c'est quelque chose de colossal, et en même temps. Enfin, il me semble que vous, enfin, je me dis quand c'est pas Michel Gondry qu'on fait un film d'animation, un long métrage d'animation, j'ai cru voir 3 animateurs, c'est un choix. Donc, enfin, je pense, c'est sûrement stupide, mais j'aimerais savoir du coup que vous parliez un peu du contexte de création et ce choix du coup de faire un long métrage d'animation à 3. Est-ce que c'était un calvaire ou est-ce que c'est, je sais que ça se sent que c'est une passion de l'animation aussi. Mais voilà, c'est encore un peu flou dans ma tête, je voudrais savoir, est-ce que c'est un message pour... Moi, je l'ai pris comme ça, personnellement, chez l'animation, du coup, ça m'a donné une grosse bouffée d'air frais, c'est une preuve de travail, de courage remarquable qui inspire vachement. Voilà, je voulais savoir si...
C'est vrai qu'il y a deux animateurs qui m'ont aidé et qui sont intervenus après... après cette phrase, j'en parle après, quand tu parles des siècles des Lumières, de Newton. Et c'est vrai que quand je le faisais, ça me paraissait sans fin. Parce que le passage, je ne pouvais pas le raccourcir. Parce que son discours, il parlait de Galilée, il allait jusqu'à Newton. Et je ne pouvais pas enlever des étapes. Et à l'époque, je faisais vraiment tout seul. Après, sur la fin du film, j'ai fait appel à deux animateurs qui m'ont aidé énormément. Ce qui se passait, c'est que je faisais, par exemple, on voit les petits enfants marcher autour de la maison, c'est eux qui m'ont animé, les petits enfants. Et puis il y a pas mal de scènes qui m'ont été animées, mais à ce moment-là du film, j'avais tout fait tout seul, et c'est vrai que, bon, d'une part, j'avais l'impression que ça allait être chiant à regarder, et d'autre part, j'en voyais pas le bout moi-même. Alors j'ai fait une sorte de pause en exprimant un petit peu ce que je ressentais. Voilà, parce que aussi, je pense que j'avais envie de qu'on entende ma voix, qu'on ressente ce que je pouvais ressentir. Il y avait des moments où c'était extrêmement créatif et réjouissant, et d'autres moments où c'était un petit peu plus contraignant. Par exemple, j'avais fait une séquence avec un arbre où j'avais vraiment l'idée dès le départ, une autre séquence avec un homme préhistorique, et entre les deux, il fallait que je trouve un lien, et là, je ramais un petit peu. Donc, un peu décourageant, et bon, voilà, j'ai voulu en parler, c'est pour ça qu'il y a ce passage où j'ai peur de ne pas terminer le film.
Merci.
Mais sinon, j'ai quand même adoré le faire.
Ce que j'ai
vraiment aimé le plus, c'est ce que j'adore dans l'animation, surtout parce que je la pratique notamment avec cette caméra 16 mm qui est très pratique pour enregistrer les images, mais on peut pas vérifier la qualité d'animation.
C'est pas exprès,
c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut attendre une semaine ou 15 jours avant de voir le résultat. Et le samedi matin, par exemple, quand j'étais pas en train de travailler sur le Green Hornet, j'allais dans l'endroit où on fait le télécinéma, c'est là où on transfère les images du film sur un support digital, et je découvrais les images qui prenaient vie. Et ça, c'est un moment que un sentiment que j'ai découvert sur mon premier film d'animation en 1986. Et d'ailleurs, j'avais un ami qui m'avait aidé à faire le montage, et j'étais tellement content de courir au labo pour voir le film projeté. Il m'a dit, bon, tu verras, dans quelques années, ça te passera. Et on ne s'en est pas du tout passé. C'est toujours la même excitation. D'ailleurs, quand les gens me demandent, parfois les gens me demandent, qu'est-ce qui vous rend heureux par reflet du film? Ça, c'est une des choses qui me rend heureux, c'est de voir une succession de dessins qui sont séparés les uns des autres, avec l'histoire de la persistance rétinienne, etc., prendre vie et créer une sorte de nouvelle dimension. Voilà, c'est ce qui me motive le plus.
Je suis juste curieux, vous n'avez peut-être pas de réponse, concernant l'adaptation de L'écume des lourds. C'est, je crois, le seul... livre que j'ai pas pu terminer, pas parce qu'il m'intéressait pas, mais parce que j'étais tellement attaché au personnage que voir la santé de la demoiselle qui périclite au fil du temps, ça m'a été assez pénible et j'ai dû fermer le livre. Je voulais juste savoir si certains qui ont eu peut-être cette réaction ont eu du mal également à visionner votre film que je n'ai pas lu, peut-être parce que je crains d'être replongé dans cette expérience pénible.
Parmi les choses qui m'ont été reprochées sur ce film, ça n'en faisait pas partie. Moi-même, j'ai eu très peur en le faisant, justement, d'avoir cette tristesse. Et je l'ai ressenti quand j'ai fait le film. Ce qui m'a été reproché, c'était autre chose, mais peut-être qu'on ne ressentait pas assez cette tristesse. Moi, je l'ai ressenti, je pense qu'elle est là. D'autres gens l'ont moins vue. Peut-être qu'il y avait des versions de montage où on la ressentait plus. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'est des raisons pour lesquelles je suis pas super pressé de faire Ubik, parce que ça parle beaucoup de la mort et qu'un sujet qui m'angoisse pas mal, qui est pas. Mais d'ailleurs, j'en parle dans ce film aussi. J'avais très peur de ça aussi. Et finalement, il y a plein d'autres choses qui se greffent sur le film, qui font que, au bout du compte, il y a des préoccupations. J'avais des critiques un petit peu du studio qui voulait que j'allège un petit peu la fin, alors que moi, je l'avais fait, voulait la faire vraiment. On voyait le Colin joué par Romain Duris, s'acharner à fabriquer le cercueil. Après, il, pendant des heures, il devait casser la porte parce qu'elle était devenue trop petite pour que le cercueil puisse passer. Et moi, pour moi, c'était très fort sur la mort, mais bon, ça s'est pas ressorti exactement comme ça, en tout cas pour, pas pour tout le monde. Mais c'est, effectivement, j'avais peur de ça.
Bonsoir. Encore merci pour le film. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'animation qui fait partie à 95% du film, mais aussi d'une grande présence du support vidéo, et notamment vous utilisez votre fameuse caméra à manivelle. Et je voulais savoir plus précisément quelles étaient les contraintes et pourquoi ce choix de caméra.
Mais il n'y a pas de support vidéo. Enfin, le support vidéo, il est là pour projeter le film. Il m'a servi à le monter, mais la prise de vue est entièrement faite sur film. J'ai utilisé cette caméra que j'ai achetée en 86 avec laquelle j'ai fait mes premiers films. Bon, peut-être une part de nostalgie, mais elle est très 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 efficace pour l'animation. Et j'ai, pour une raison qui n'est pas forcément facile à expliquer, je voulais filmer les parties de Noam Chomsky avec la même caméra et en utilisant les contraintes que ça impliquait. Bon, par exemple, le fait que je pouvais pas tourner plus de 20 secondes, qu'il fallait que je remonte la caméra, qu'elle faisait un bruit pas possible, parce que c'était une sorte de défi que je me lançais. C'était assez... par exemple, si ce film avait un producteur au départ, on aurait très fortement dissuadé de faire cette technique qui paraissait complètement aberrante. Et moi, là, j'étais intéressé parce que ça créait un problème qu'il fallait résoudre de manière créative, c'est-à-dire qu'on entend la caméra quand on voit les images de Noam. Donc d'une part, je suis obligé de montrer l'image de Noam à ce moment-là, mais aussi je suis obligé de illustrer le bruit qu'on entend en réinsérant une caméra de manière graphique. Et voilà, l'idée que dans la bande son on entende la caméra et que je sois obligé d'illustrer, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis aussi l'idée de devoir choisir les segments où il apparaît à l'image, même si c'est de façon aléatoire, et de ne pas revenir dessus, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire c'est une décision sur laquelle on s'engage et on ne peut pas revenir dessus. Ça me plaît assez, ça m'a l'air de faire.
Merci. Bonsoir. Ça va. Après toutes ces éloges, je vais me permettre deux critiques. La première, ce serait plus sur la forme. J'ai eu du mal à suivre le mélange du discours très complexe de Chomsky et vos animations. Je trouve que les deux en même temps, pour ma part, ça faisait trop lourd. J'ai pas pu vraiment apprécier les animations, puisque je me suis plutôt concentré sur le propos de Chomsky. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et plus sur le fond, vous présentiez Chomsky au début comme quelqu'un d'anti-dogmatique. Et en même temps, dans votre film, j'ai trouvé que c'était très dogmatique, puisqu'il y a à aucun moment un contradicteur à Chomsky. Et pourtant, il me semble qu'il n'a pas démontré sa théorie linguistique. Elle est certes partagée, mais non démontrée. Il y a quand même des contradicteurs. Et est-ce qu'il n'a pas été important d'essayer de mettre ça, de contextualiser un petit peu ça, et de rendre les choses un peu moins simplistes, c'est pas le terme, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est mettre un petit peu plus de nuances et de contradictions là-dedans.
C'est vrai qu'il a même en linguistique, il a des opposants, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je crois en ce qu'il dit, et c'est vrai qu'il y a ce rapport de maître à élève, je pense que le principe du dogme, c'est qu'on n'a pas besoin de démontrer, et que lui, il a quand même passé sa vie à démontrer, à prouver scientifiquement que son explication tenait la route. Maintenant, il y a des gens pour d'autres solutions et d'autres des opinions divergentes. Moi, c'était pas mon but d'instaurer une contradiction, parce que d'une part, j'étais convaincu, et d'autre part, je me sentais pas l'envergure de le faire. Libre à vous de penser différemment. Il exprime sa pensée, il la démontre plus ou moins. Moi je l'illustre, en tout cas j'illustre mon sentiment en l'écoutant. Comme je disais tout à l'heure, J'avais l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui avait apporté une énorme contribution à la séance, et c'est pas tous les jours que ça m'arrive, donc j'avais plutôt envie que de lui rentrer dedans, plutôt de l'écouter, comme je le disais. Bon, par exemple, Newton, qui a formulé des lois sur la gravitation, qui sont encore utilisées quand on envoie les gens sur la Lune ou les fusées dans l'espace. On n'utilise pas du tout les théories de Einstein. Donc les théories de Newton sont encore valables aujourd'hui. Il a il croyait en l'astrologie, comme on le dit là. Donc il avait aussi des choses, des croyances qui étaient des erreurs. Ou même Galilée, il a fait des erreurs, il a interprété les anneaux de Saturne comme des lunes, je ne sais plus exactement. Il n'empêche que si j'avais l'occasion de voir Newton maintenant et de faire un documentaire sur lui, je ne dépenserais pas mon énergie à démontrer qu'il a tort. Donc voilà, c'est un petit peu ce principe. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec Chomsky. Il y a aussi pas mal de gens qui sont pas d'accord, mais qui finalement pas compris grand chose. J'ai eu des interlocuteurs qui essayent d'opposer des arguments, mais qui, à mon sens, ne tenaient pas du tout la route. Voilà, c'était, j'ai pas, de toute façon, j'avais pas les armes. Il y a des choses, peut-être que, à un certain moment, j'avais l'impression qu'ils m'écoutaient pas vraiment, donc là, on pouvait parler de dogme. Mais il m'a semblé que j'avais en face de moi quelqu'un qui justifiait ma démarche. Alors, par rapport à la complexité de l'animation, par rapport à sa voix, sa partie que j'avais pris au départ et que sur lequel je suis pas revenu, je me suis pas dit à un moment donné non, je vais revenir sur des gros plans de son visage parce que ça sera plus facile à regarder. Comme quand je fais mes clips, je prends l'idée. Au bout. Là, j'avais l'idée d'illustrer ces mots, ou en tout cas ce que je ressentais en écoutant ces mots, de manière graphique, et j'ai tenu à faire du début à la fin, parce que c'est comme ça que je travaille, et voilà, j'ai pas eu envie d'abandonner mon projet en cours de route.
Je vous tiens à
dire,
non, là, c'est une question par rapport
à... D'accord, mais je venais pas voir après la réunion. Ne venez pas voir après le Q&A pour proposer une troisième question.
Vous avez un préjugé, un peu
Non, si j'arrive pas à comprendre votre question, allez-y, on va se
répondre. Non, moi, c'est par rapport à votre super film que j'ai vu ici, et j'aurais aimé que vous y soyez, comme vous êtes là ce soir, je vous en parle, The We and The Eye and the We.
The We and the Eye.
Que j'ai trouvé sublime. Vraiment, moi, je travaille dans un quartier populaire. Je suis né, ça fait 40 ans que j'y suis, on dirait. Et ce film est fondamental. Enfin, vraiment, moi, c'est un film. Je trouve ça important. Ma question, c'est, dans ce huis clos, je l'ai vite fait dans un bus de jeunes qui rentrent chez eux. Et qui est très dur au début, hein, qui est très réaliste, hein, au niveau interpersonnel. Et pourtant, moi, j'ai l'habitude hein, des jeunes qui se crachent dessus. Et même le début est dur. Et au fur et à mesure, c'est un film que je trouve vraiment à voir. Alors, je voulais savoir si vous avez fait ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire, est-ce que vous avez diffusé ce film à des jeunes en France ou aux États-Unis, et est-ce que vous avez été là pour répondre à leurs questions?
Oui, je l'ai fait. Peut-être pas autant sur le film de Chomsky. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un peu triste, c'est que ce film, finalement, a eu peu d'écho, notamment dans les quartiers, dans les banlieues, les quartiers difficiles, parce que ben, les gens, ils vont voir Captain America, à la limite, ils ont plus vu Green Lantern que ce film. Donc, c'était pas... d'ailleurs, pour la raison que vous évoquez, j'ai voulu faire une version française pour que ce type de public aille voir ce film, et ça n'a pas pris. C'est un paradoxe qui est un peu dommage, et que finalement, c'est des gens plus des villes qui ont été voir ce film, des gens plus privilégiés qui se sont intéressés à ce film, que finalement les gens de qui je parlais. Mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement entre ce film de Chomsky, celui de William, et celui sur ma tante, qui était un documentaire sur la transmission du savoir et sur son expérience d'institutrice. Je vais faire une sorte de trilogie avec ces films. Bon, elle est assez vague à comprendre, mais ce phénomène de groupe m'a fait poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que j'ai eu moins l'occasion d'en parler, mais j'en ai parlé et ça me tient beaucoup à cœur. J'ai expérimenté dans un bus un jour en rentrant du travail. C'était 80, c'était en 15e, c'était une école, pas du tout le même type de population. Et au départ, le dialogue était très très superficiel, très agressif. Et au fur et à mesure que le groupe se divisait et que les conversations se passaient devenaient plus actives et plus approfondies, voilà, je trouvais que c'était une dynamique intéressante sur laquelle j'ai voulu travailler. Était peut-être plus dans votre domaine de réflexion, et peut-être que j'aurais plus de facilité à répondre à vos questions. C'est l'autre question, ça aurait été la chance qui des réponses.
Oui, bonsoir. J'avais juste une question, c'est avec une personne qui a autant de facilité d'aisance à passer d'un scientifique à une autre, ou une théorie à une autre. J'ai l'impression que c'est un ressenti personnel, mais je l'ai senti beaucoup plus distant et décomposé quand tu lui penses qu'est-ce qui vous rend heureux. Et est-ce que c'est un point de vue personnel, ou ce que j'ai ressenti par rapport à sa réaction? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de difficultés à parler du bonheur personnel que n'importe quelle théorie scientifique ou grammaticale.
Ben, moi, c'est ce que je pensais aussi. Mais dans les interviews que j'ai données par rapport à ce film, on me pose souvent la question, en plein milieu de l'interview, on me dit « mais qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Et c'est très difficile de répondre quand votre esprit est branché sur des questions assez techniques, ou de créativité, ou sociale, ou politique. Tout d'un coup, on vous pose la question « qu'est-ce qui vous rend heureux ?» C'est très difficile de répondre. C'est même beaucoup plus difficile que de demander quel est votre premier souvenir. Donc, je pensais que, finalement, il pensait pas à son bonheur. Et puis, quand on m'a posé la même question, bah, je me suis dit que j'y pensais pas plus. Et puis, après, ça prend du temps. Et d'ailleurs, il y a un moment très triste où il dit que depuis sa femme est morte, il va plus jamais au cinéma, il va très peu au restaurant, des choses comme ça. Mais petit à petit, il trouve des choses quand même qui le rendent heureux. Il dit gratifiant, mais je pense que c'est ça va plus loin que ça. Et finalement, on se rend compte que sa vie, elle est pas du tout morose ou triste. C'est qu'il rencontre plein de gens dans plein de pays différents. Donc, il en parle très bien, que ce soit... il parle de la Turquie, il parle de la Colombie. Il rencontre des gens qui sont dans des situations très difficiles, qui se battent et qui ont pourtant... qui l'accueille chaleureusement et ce contact avec les gens qu'il a en permanence, parce qu'il passe pas son temps à la télé, il n'a jamais la télé, en revanche, il fait beaucoup de conférences et de même en tout petit comité, et donc il a un contact très très intime avec les gens, et je pense que il y a beaucoup de raisons d'être heureux, et simplement quand on réfléchit à la grammaire générative ou l'éducation, ça vient pas tout de suite à l'idée. Je pense qu'on a une fausse idée du fait que c'est vrai qu'il est très marqué par la disparition de sa femme, avec laquelle il a vécu pendant, je sais pas, 60 ans. Donc on sent une tristesse, mais il a des raisons d'être heureux.
Bonsoir. Moi, ce que j'aime bien dans mon film, c'est que souvent le fond et la forme sont excellents. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'était culturellement, qu'est-ce que vous avez apprécié récemment, je ne sais pas, en film, en vidéo, ça peut être des courts-métrages, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des clips, qu'est-ce que vous avez apprécié récemment?
Il y a beaucoup de choses. Hein. En film, j'ai été voir ce film japonais qui s'appelle Tel père, tel fils, que j'ai énormément aimé. J'aime bien les comédies françaises, un peu des années 70 ou 80. Ouais. Mais bronzé. Enfin, quand je passe beaucoup de temps aux États-Unis, j'aime retrouver ce genre de film pour me replonger un peu dans l'esprit français. Je fais pas de jeux vidéo. J'aime l'esthétique du jeu vidéo, ça m'intéresse. Je l'ai suivi depuis qu'ils existent, mais sans y participer. Il y a des choses qui se font en art contemporain qui m'intéresse beaucoup. J'essaie de pas trop me laisser influencer, parce que c'est un peu de tendance que les réalisateurs ont, c'est d'aller piquer leurs idées dans d'autres domaines, et donc j'essaie d'éviter ça. Je sais pas, j'ai des pièces de théâtre, des trucs assez pas forcément intellectuels. J'ai vu une pièce de théâtre, une sorte de ballet, ça m'a un truc russe, intellectuel qui m'a épuisé. Du tout aimé. Quoi dire d'autre? Il y a des artistes qui font de l'animation, par exemple quelqu'un qui s'appelle Pez, qui fait de l'animation avec des objets tous les jours, mais de manière très 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 complexe, qu'on peut voir sur YouTube, ou un autre qui s'appelle Cirque. Un autre qui s'appelle Luke Blue qui fait des sortes de graffitis animés. Il y a plein de choses que je vois, ou des chorégraphies de rue, des gens de Auckland qui prennent une manière de s'exprimer apparemment très simple et urbaine, et qui trouvent une profondeur, justement un travail répété qui me passionne. En fin de compte, ils arrivent à un niveau presque comme Chomsky avec sa science, sauf que c'est, tout est donné dans le mouvement des corps. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent.
Une chose qui m'est venue, si on lui pose la question de savoir ce qu'est le bonheur pour lui, j'ai noté au début du film moi je fais partie des gens qui pensent que le vélo rend heureux. Donc je le vois au début du film avec son meilleur pote en vélo, et à la fin, alors est-ce que c'est son idée ou c'est la vôtre, on le voit avec sa femme Carole en vélo. Alors je sais pas si c'est son idée du bonheur ou si c'est la vôtre.
Mais c'était une sorte de... Comme j'avais posé la question sur sa femme et que il était trop touché pour en parler, j'étais un peu gêné, je me sentais coupable, et je me suis dit comme cadeau, enfin, on peut dire que c'est un cadeau, j'allais faire une séquence où il faisait du vélo sur les nuages avec sa femme. Voilà, c'est une idée qui vient de moi, mais peut-être que lui, oui, il aimait bien faire du vélo, je comprends, hein, c'est des rares sports que j'aime faire, hein, personnellement. Hors de la course, j'aime la marche et le vélo, je trouve ça agréable, mais bon, pas avec des t-shirts acryliques qui serrent les boules et tout ça. Mais il a été très touché par cette séquence, aussi la séquence où on le voit marcher sur la route avec sa femme. C'est ses moments préférés du film, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai faits. C'était une manière de faire revivre sa femme, et je crois qu'il y a des sensibles. C'est vrai que dans les trucs qui me rendent heureux, j'ai des idées de balade à vélo dans les Cévennes avec... j'avais une copine qui faisait de la bande dessinée, et j'avais réussi à la dessiner tout en faisant du vélo. Et c'était super drôle. Ou alors, ce que je faisais, c'est que je prenais de l'avance sur elle, et deux virages, et je faisais semblant d'avoir un accident de vélo, et je me mettais accroché à un verre dans un arbre. C'est les trucs qui me rendent heureux. J'avais une autre copine où je faisais semblant d'être mort. Je crois qu'on se tenait notre gage. Je pense à ça parce que chaque fois qu'on me demande qu'est-ce qui vous rend heureux, je ne trouve jamais rien à dire. Et là, j'y pense. Une fois que j'entendais ses pas dans l'escalier, je faisais semblant d'être mort d'une mort tragique. Et elle faisait pareil.
Merci à tous.
Merci.